Des livres plein les oreilles.
Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde Seille au micro de Canal M. Et oui, une nouvelle émission déjà, des livres plein les oreilles et plein de titres encore une fois à vous suggérer aujourd'hui. Faut-il vous rappeler que le service québécois du livre adapté est un service absolument gratuit dont vous pouvez bénéficier en passant par BANQ. Voulez-vous que je vous rappelle le numéro? Alors je vous le rappelle, il s'agit du 1-866-410-0844. 1-866-410-0844. Aujourd'hui, à l'émission, beaucoup d'invités. Nous allons retrouver avec grand plaisir Gérald Cousineau, avec qui nous allons commencer l'émission. J'accueille l'auteur Jean-Louis Roy, j'accueille Claudia Larochelle, animatrice, auteur, mais aussi nouvellement, et nous en sommes très heureux, porte-parole de l'organisme Vues et Voix. Et nous accueillerons également en seconde partie Gérard Saint-Denis. Tout un programme. Et alors des livres, il y en a, mais il y en a, mais il y en a. Alors, on commence peut-être avec Monsieur Gérald Cousineau, qui doit certainement être au bout du fil déjà, Gérald.
Je suis là, Clotilde, bonjour.
Comment ça va?
Pas mal, merci.
Gérald, j'ai très hâte que vous nous parliez de ce livre que vous m'avez suggéré, parce que celui qui l'a écrit est personnellement un des types que j'aime certainement, non pas le plus au monde, mais je veux dire en littérature, en éthologie, en psycho,
oui.
c'est quelqu'un de très marquant. Je vous laisse le soin de nous le présenter.
Alors, je parle de Boris Cyrulnik,
oui.
Psychiatre, psychanalyste, auteur prolifique, etc. Ben, il est né en 1937 dans une famille d'immigrés juifs. Son père était russo-ukrainien, sa mère était polonaise. Mais la famille a déménagé en France vers 1930. Alors, il est très connu, vous le savez, pour avoir vulgarisé le fameux concept de résilience.
Mais oui, c'est à lui qu'on doit ça. Hein?
Et d'ailleurs, dans le livre dont je vous parle, publié en 2012, est disponible au SQLA, « Sauve-toi, la vie t'appelle ». De quoi est-il question sinon de résilience? Mais là, c'est curieux parce que Cyrulnik va être à la fois, on pourrait dire, le sujet et l'objet de son livre. Parce que qu'est-ce qu'il raconte? Grosso modo, il part de 1944, une nuit de janvier 1944, il échappe de justesse à la déportation nazie. Et là, il va se trimballer, d'une famille à l'autre, d'une institution à l'autre, mais il survit à tout ça. Il se retrouve chez Dora, la sœur de sa mère, qui est danseuse à Paris. Alors là, il raconte ça, je dis ça un peu vite, mais il raconte donc cette enfance qui est mal partie. Il va dire d'ailleurs qu'il est comme né deux fois. Mmh. Il est né en 1937, la date biologique, disons, et en 1944, la nuit où il a failli être ramassé, entre guillemets, par les soldats allemands. Mmh. Il est né comme deux fois, mais son histoire, ou on pourrait dire son traumatisme, commence en 1944. Et c'est quoi ce livre? Ben, c'est finalement l'histoire d'un traumatisme, celui de, on pourrait dire même, le cas Boris.
Oui, c'est ça.
C'est vraiment sa vie, son histoire qu'il raconte, et il le fait, bien sûr, avec le vocabulaire de l'homme qu'il est devenu. Le praticien.
Oui.
Alors, c'est pour ça qu'on va avoir des expressions comme représentation de soi, agonie psychique, mémoire traumatique. On est dans des termes sérieux, là. Mais parce que ce monsieur est extrêmement intelligent, mais c'est raconté d'une façon accessible, toujours. Il n'y a pas de jargonnage chez Cyrulnik. D'ailleurs, vous l'avez sûrement déjà entendu parler, hein. Quelle voix il a, ce monsieur.
Ah oui, hein?
Il a une voix d'une douceur. C'est une voix qui vient nous caresser. Ben, j'ai envie de dire que dans le livre, il y a ça aussi. Oui. Une espèce de caresse. D'ailleurs, vous avez un extrait, je pense, à nous lire.
Extrait, pas vraiment, mon ami. Mais j'ai une phrase que je trouve terrible et qui est extraite de ce livre-là. C'est au moment où on lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'appeler Jean Borde, répète. Et rien que ça, évidemment, parce que, comme le gamin est juif, on veut essayer de cacher les origines. Et là, alors il change de nom, comme beaucoup à ce moment-là ont fait, lorsqu'on les a cachés à droite et à gauche. Et ce môme-là, moi, ce qui m'a touché, c'est qu'au départ, sa vie est une vie un peu désespérante quand même.
Oui.
Il vit des choses, et d'ailleurs, c'est pas par hasard s'il est à l'origine du concept de la résilience.
Mm-hmm.
C'est que lui-même en est un, et un vrai. Et il y a un truc, moi, qui m'a touchée beaucoup, c'est le fait, je sais pas, peut-être parce que ça me rejoint un petit peu, on dit, pour en sortir, il s'est mis à parler beaucoup, et même,
oui,
il s'est mis à faire le pitre.
Oui, oui, oui.
Et j'imagine mal Cyril Nick, comme vous le dites très justement, avec cette voix très douce, petit bonhomme en train de faire le pitre pour essayer de surnager au milieu de tout cela. Vous en pensez quoi, Gérald?
Je l'ai d'ailleurs, parlant de faire le pitre, je l'ai entendu récemment, parce qu'on peut trouver dans YouTube une entrevue avec Boris Cyrulnik à propos de ce livre-là, et il est drôle par bout.
Ouais.
Or, moi, je ne l'avais jamais entendu plaisanter. Or là, il plaisante. Alors, et ça m'a fait penser effectivement au Cyrulnik qu'on retrouve dans le livre. Je ne dis pas que le livre est drôle, pas du
non,
tout.
Non.
Il est même, comme vous dites, désespérant, il est poignant. Oui. Mais en même temps, il va raconter ça d'une façon parfois un peu, qui peut nous apparaître froide, parce que c'est, encore une fois, c'est le praticien qui essaie de disséquer son passé, parce que c'est un livre qui traite de tellement de choses. C'est un livre, entre autres, je dirais, sur l'indifférence qui tue, mais en même temps, sur l'attachement qui sauve. Or, c'est ça qui l'a sauvé, finalement, c'est l'attachement à quelques personnes.
Oui,
il n'y a pas de mélo dans ce livre-là. Il n'y a pas de critique. Il aurait pu écrire un livre absolument noir sur le genre humain. Pas du tout. Il n'y a pas de critique acerbe. Il n'y a pas d'amertume.
Non,
il va disséquer son passé. Pourquoi? Ben, pour mieux le comprendre et, par ricochet, pour aider les autres à mieux se comprendre et surtout, je dirais, à s'accepter. Car d'ailleurs, j'ai envie de faire un parallèle entre traumatisme et handicap. On a parfois tendance à tourner le dos à un traumatisme qu'on a vécu ou à son handicap.
Mm-hmm.
Non. Mm-hmm. Et comme dirait le critique, il y a des passés qui ne passent pas. Alors, il faut un jour ou l'autre composer avec.
On parle aussi d'une analyse très, très fouillée, hein, si vous me permettez cette expression, de l'impact de la violence. Par exemple, la culpabilité que ça engendre. Exemple, c'est de ma faute s'il m'a frappé.
D'ailleurs, quand il parle de la culpabilité, il parle aussi des hommes ordinaires. Je pense que c'est Primo Levi qui disait que les hommes ordinaires étaient les hommes les plus dangereux. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hitler? Tous ces gens fanatisés. Il va écrire une très jolie phrase. À un moment donné, il dit « Le bonheur dans la servitude nous sécurise, mais le plaisir du cheminement personnel nous isole. » Et ça, c'est terrible, au fond. Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui sortent du lot? Et heureusement pour nous, il a survécu à tout ça, et ça nous donne le Boris Cyrulnik que l'on connaît.
Voilà, et surtout ne pas avoir peur de ce livre, hein, dans le sens
qu'il est
vraiment très, très accessible.
Oui.
J'ai lu quelque part, un lecteur a dit qu'il l'avait lu d'une traite.
Ben oui.
Vous savez, comme un roman, finalement.
Oui, comme un thriller. Mais c'est vrai que je dirais en terminant que c'est une formidable leçon de vie.
Ah oui, hein?
Oui. Vraiment, sauve-toi, la vie t'appelle. Comme si, effectivement, il s'était sauvé du danger en échappant aux Allemands. Et comme s'il avait senti inconsciemment que la vie l'appelait ailleurs.
Ben oui.
Qu'il avait autre chose à vivre. Que sa vie ne devait pas s'arrêter à 6, 7 ou 8 ans.
Et tout ce qu'il en a fait, hein, de cette vie-là.
Oui, c'est assez incroyable.
Parce que Dieu sait si ça nous a aidés, si ça nous aide encore, si cet homme-là nous a ouvert les yeux, hein, beaucoup.
Et lire ce livre-là peut nous donner le goût d'aller lire d'autres livres du même monsieur.
Eh bien, Gérald, comme toujours, ce n'est que du plaisir de vous entendre parler de littérature, de livres. Et j'espère qu'on se retrouve très bientôt, mais principe vers la mi-décembre, quoi, un petit peu avant Noël. Oh mon Dieu!
Que le temps passe vite.
Oh, c'est épouvantable, je viens de dire à la mi-décembre Noël, et je ne peux y croire. Alors, je vous embrasse très, très tendrement. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre nouvelle participation.
Au plaisir, Clotilde.
Merci, au revoir. Et j'accueille maintenant en studio, ils sont déjà auprès de moi, Claudia La Rochelle. Claudia,
Bonjour. Écoutez,
à chaque fois que vous venez ici, c'est comme un événement. Là, on voit qu'on a les yeux qui brillent. Et puis, c'est vrai, c'est comme, oh, c'est Claudia La Rochelle. Chalet. Alors, en plus, quand ils ont appris que vous aviez accepté d'être la porte-parole de Vues et Voix, et spontanément, vraiment, alors c'est encore plus important ici. On a toujours envie de gonfler les ballons, sortir les bouquets de fleurs. Enfin, bon, c'est vrai qu'on vous aime vraiment beaucoup.
C'est comme un cupcake, moi, finalement, avec des brillants. Donc, quand j'ai accepté, c'est sûr, parce que ça me touche personnellement.
Ouais.
J'avais une grand-mère qui était atteinte de dégénérescence maculaire et qui adorait lire.
Mm-hmm.
Elle n'est plus parmi nous, malheureusement, mais c'est sûr que ça me touche profondément. C'est une cause sociale que j'adopte, le cœur très, très grand et ouvert. Puis j'étais très honorée aussi qu'on pense à moi pour ça.
Et on va parler avec vous de littérature, de livres, notamment d'une nouveauté. Juste avant, je me tourne vers l'autre invité aussi pour le présenter, Monsieur Jean-Louis Roy. Jean-Louis Roy, je suis très heureuse également de vous accueillir. Écoutez, vous avez ex-directeur du Devoir, vous avez voyagé, vous avez été ambassadeur, vous avez été, enfin, vous êtes un gars qui vient de la Beauce. Hein?
Ben c'est tigre. Ce que j'allais dire, je suis d'abord un Beauceron.
Voilà, un tigre qui vient de la Beauce, un Beauceron, et qui devient un intellectuel influent, qui écrit beaucoup, et qui, entre autres, qui se passionne pour l'Afrique. Et là, évidemment, la première question, je me dis, mais tigre qui naît en Beauce et qui se passionne un jour pour l'Afrique, on en a raté des grands bouts. Alors j'ai hâte, Monsieur Roy, que vous nous racontiez pourquoi cette passion pour l'Afrique qui a donné lieu à plusieurs livres dont, et nous en sommes très fiers, la première production de Vues et Voix, le premier livre audio produit par Vues et Voix, qui sera lancé ce soir, parce qu'il faut que je le dise, ce soir, nous sommes le 18 novembre, c'est l'ouverture du Salon du Livre, qui va vous permettre à tous les deux, d'ailleurs, d'être réunis, puisque, oui. Claudia, vous allez pouvoir présenter au public ce livre de Jean-Louis Roy. Monsieur Roy, vous avez accepté, d'ailleurs, de répondre à quelques questions de Claudia La Rochelle ce soir, mais aujourd'hui, c'est moi qui les pose pour le moment, en cette belle après-midi. Je vais commencer peut-être par Monsieur Roy, Claudia, avec ce livre, Le Pèlerin Noir. Et comme je le disais tantôt, écoutez, lorsque j'ai lu sur vous, bien évidemment, pour me préparer, bon, vous, l'homme journaliste, historien, diplomate, auteur, donc, pour qui la francophonie est si importante, parce que vous avez été secrétaire de ce qu'on appelle encore
avant
aujourd'hui...
Avant Madame Jean.
Avant Madame Jean, exactement, Jean, ouais. De ce qu'on appelle aujourd'hui l'Organisation internationale de la francophonie. À l'époque, ça s'appelait l'Agence de la francophonie. Alors, il y a une double passion chez vous. Il y a la passion pour la francophonie, il y a la passion pour l'Afrique. Est-ce que ça a commencé par la francophonie qui vous a amené vers... ou peut-être le contraire?
Vous savez, je suis plus trinitaire que dual. La première passion, c'est la liberté humaine.
Ah.
C'est dans les droits.
Oui.
Et si je suis ici aujourd'hui, c'est à cause de cette notion de droit. Mm-hmm. Les gens qui ont des handicaps, toutes sortes de handicaps, on a tous des handicaps d'une certaine façon. Ont les mêmes droits que nous tous. Comment on peut combler le fait qu'ils ont une difficulté, et compenser des fois par une richesse extraordinaire. Alors, ça, c'est ma première
ligne de fond.
Dans la vie. J'étais président de la Ligue des droits de l'homme au moment de la crise de 70. J'ai toujours été dans les droits. Mmh. C'est d'abord ça. Ensuite, l'Afrique, c'est très bizarre. Je suis donc au Devoir, comme vous l'avez rappelé.
Oui.
Et puis, on me demande de représenter le Québec comme délégué du Québec à Paris au moment où se tient le premier sommet des pays francophones en 1986 à Versailles. J'arrive donc comme délégué du Québec. 15 jours après, c'est le sommet de la francophonie et je représente le Québec là. Et je me rends compte qu'autour de cette table, on est une soixantaine de pays, et il y en a 40 qui sont africains, et que je suis blanc minoritaire. C'est assez bizarre,
oui.
Ça. Nous, on est habitués de voir les noirs minoritaires.
Absolument.
Et là,
c'est
moi qui est minoritaire. Et puis, pour toutes sortes de raisons qui seraient trop longues d'expliquer ici, on me demande de faire des rapports sur les institutions, des trucs. Je suis obligé d'entrer en dialogue avec tous les pays francophones, donc avec les pays africains, et je découvre un monde que je n'ai jamais quitté depuis, à un monde de vieilles civilisations. Nos amis d'Afrique ne sont pas des primitifs, de très anciennes civilisations dans les millénaires, de systèmes sociaux extrêmement passionnants, différents des nôtres, avec leurs limites comme les nôtres, mais leur richesse aussi.
Oui.
Je découvre des cultures de la couleur, de la vie, de la musique, du rythme, de la danse. Je découvre plein de choses étonnantes que j'ignorais. Et je me colle sur l'Afrique et je deviens secrétaire général de Francophonie. Je suis élu, et largement par les pays francophones. Je suis élu trois fois, par eux, par les pays africains. Et là, je passe pendant 12 ans, la moitié de mon temps, à visiter les pays africains, à aller inaugurer des bibliothèques, lancer des programmes de ci, de ça. On est en coopération internationale. Et je deviens littéralement Jean-Louis l'Africain, comme les Africains m'appelaient à l'époque.
Ça, c'est vous, ça!
Oui. Alors, le petit bosseron est devenu Africain.
Mais écoutez, Jean-Louis, moi, je me suis dit, est-ce que c'est... Bon, c'est forcément, d'ailleurs, c'est pas une question, c'est forcément cet attachement-là aussi qui vous amène à écrire et qui vous amène aussi à dire, entre autres, au Canada, attention, ne laissez pas tomber l'Afrique. Hein. Culturellement, ces gens-là, à un moment donné, vont peut-être même avoir beaucoup plus de choses à apprendre que maintenant, parce qu'ils nous en ont appris, d'ailleurs, je trouve, moi, personnellement, beaucoup. Mais, et vous avez dit ça, et vous avez même écrit en ce moment ce livre dont vous parliez hors antenne à notre amie Claudia La Rochelle, au titre très, très long que vous allez me rappeler.
Bienvenue dans le siècle de la diversité, la nouvelle carte culturelle du monde.
Voilà. Et où vous nous dites notamment que c'est bientôt en Asie, finalement, et en Afrique, hein, qu'on retrouvera peut-être les plus grandes personnalités culturelles de la planète.
70% des êtres humains dans 25 ans vont vivre en Asie et en Afrique. Il y aura 2 milliards d'Africains. Un homme sur 4 va être un Africain. Il faut que l'Afrique réussisse. Si l'Afrique échoue, regardez les immigrés en Europe en ce moment. Si l'Afrique échoue, c'est un immense drame pour nous tous, pour eux et pour nous tous. L'Afrique doit réussir et un pays comme le nôtre, qui depuis 75 ans a créé toutes sortes de liens avec l'Afrique, qui malheureusement, moi je ne fais pas de politique, mais les réalités politiques existent.
Mais oui.
Depuis 10 ans, on a abandonné l'Afrique. J'espère que le nouveau gouvernement du Canada va faire mieux, va nous permettre de reprendre ce lien. Pour une raison très simple, outre le fait de la place de l'Afrique dans les affaires du monde, l'avenir de la langue française.
Mais oui.
Il y aura 600 millions de locuteurs de la langue française au milieu du siècle si les Africains continuent à parler français, à cause de leur démographie très forte. Si les Africains nous lâchent, comme c'est possible, sont vont vers l'Inde, vers la Chine, etc., la langue française ne va pas disparaître, mais ça va être une langue scandinave, parlée par quelques dizaines de millions, sans grand rayonnement dans les affaires du monde. Pour la francophonie, l'Afrique est essentielle.
Et votre passion pour l'Afrique, on pourrait en parler longtemps, mais il y a aussi un moment donné où j'ai envie qu'on parle de livres.
Oui.
Et j'ai envie qu'on parle de ce pèlerin noir.
Oui.
Alors, au départ, il y a une histoire vraie, parce que c'est quelque chose...
C'est un fait historique.
C'est un fait historique. Après, vous avez un petit peu brodé dessus ou...
Parce que là, je vais être très pétrencieux. J'ai fait comme Marguerite Yourcenar. J'ai brodé quand elle écrit Adrien. Ouais. Il y avait quelques éléments de vérité historique. Et puis le reste, elle l'a inventé. Alors, ça, c'est le mythe fondateur de l'Afrique. Tous les étudiants en Afrique, les petits Africains, apprennent l'histoire de Kankan Moussa, qui se déploie au 14e siècle, 1323-1324. C'est un récit de voyage. C'est ce prince qui a 24 ans, que les femmes trouvent très beau, qui est savant. C'est l'Afrique avant la colonisation. C'est l'Afrique avant l'esclavage. C'est l'Afrique souveraine, l'Afrique en elle-même. Donc, il est roi, contrôle à peu près le quart de l'Afrique. Il a 24 ans, ça a l'air jeune, mais 24 ans à l'époque, c'est 50 ans aujourd'hui.
C'est ça, c'est le milieu de la vie, oui.
Et il décide de faire le pèlerinage à la Mecque, il est musulman, et il part avec 8000 personnes. Il se rend au Caire, qui est le Washington du temps, et pour la première fois, on voit un leader africain, un chef d'État africain, arrivé avec plein de richesses, plein d'or notamment, qu'il apporte pour payer les choses, 8000 personnes. Et il rencontre donc le sultan du Caire, qui est l'homme le plus puissant du monde, l'ambassadeur de Venise. On découvre la civilisation africaine à travers ce prince-là, et qui ensuite traverse le désert d'Arabie pour se rendre jusqu'à la Mecque et compléter son pèlerinage. Et quand il revient avec toute une collection de livres. On est ici pour parler de livres.
Mais oui.
Il a acheté plein de manuscrits, il a acheté quelques maîtres aussi, et il crée l'université de Tombouctou, qui va devenir au 15-16e siècle l'une des plus grandes universités du monde. C'est une histoire extraordinaire.
Extraordinaire.
Et puis dans ça,
oui,
c'est un voyage. Mais il y a ses amours.
Oui.
Il y a les femmes de sa vie. Il y a les esclaves qu'il aime, les
mais
esclaves
oui,
qu'il n'aime pas. Il y a des récitals de poésie parce que
ah oui,
dans
la
cette
poésie,
civilisation,
c'est très important hein,
elle est,
dans
elle
ce
est au cœur de tout. Quand elle ils veulent se faire une grande soirée, ils font de la musique et ils récitent de la poésie.
C'est ça.
Donc, on récite dans le livre, on reprend les poèmes de la poésie arabe du 9e siècle, du 12e
oui,
siècle, des poèmes, certains érotiques très, très poussés, d'autres très mystiques. Il y a tous les univers sont là.
Un chroniqueur du temps décrit comme suit le passage des caravanes dans le désert.
Ah, c'est beau ça. Ouais.
Oh, c'est magnifique. Le jour, on aurait cru voir un océan couvert de barques dont les voiles étaient les parasols et les rideaux des palanquins. La nuit, les innombrables torches portées devant les bêtes par les esclaves faisaient ressembler le désert au ciel étoilé.
C'est beau.
Il y a plein comme ça de citations. Écoutez, parce que je voudrais vous céder un petit peu la place. Je me doutais qu'avec Monsieur Roy, on aurait envie. Mais je voudrais rappeler que ce livre-là, pour le moment, n'est pas encore disponible en adapté. C'est-à-dire, on peut l'avoir de façon numérique audio, comme tous les livres audio de la Terre, mais on ne peut pas l'avoir encore sur un petit CD là qu'on peut. Bon, mais évidemment,
il le sera.
Parfait. Ça, c'est évident. Je voudrais aussi dire que c'est vous qui l'avez lu.
Oui.
Ici même.
Oui, oui, bien sûr.
Hein?
J'en ai lu d'autres aussi.
Et aussi,
livres,
hein.
Et je vais en lire d'autres encore.
Et donc, vous avez ceci en commun.
Oui.
Parce que vous aussi, Claudia Larochelle, vous avez lu ici un de vos livres.
Certainement, oui.
C'est lequel?
Mais en fait, je n'ai pas lu un de mes livres, mais mes livres ont été lus. Moi, j'ai lu un livre jeunesse. Mais mon dernier livre, Les Îles Canaries, a été lu par une lectrice exceptionnelle. Je ne connais pas son nom, mais très
Et d'ailleurs, si vous le voulez, on va préparer. J'ai un petit extrait pour que tout le monde puisse en profiter.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord.
Welcome aboard, ladies and gentlemen. For your safety and comfort, please take a moment to watch the following safety video.
Ce film concerne votre sécurité à bord. Merci de nous accorder votre attention.
Être barman, c'est respirer le cou des femmes sans passer pour un schnappant. J'en ai senti des flamboyantes qui se parfument avec des notes épicées pour accentuer leur présence, des amoureuses éconduites qui cherchent à se consoler en appliquant des poudres scintillantes, d'autres qui camouflent un manque d'hygiène sous des effluves fruitées, rappelant les eaux de Cologne bon marché des adolescentes. L'odeur la plus sensuelle qu'il m'ait été donné de humer était celle de Louisa Vanier. Et la dernière fois qu'elle s'est avancée vers le bar au sortir d'un vol, le mélange des notes de jasmin et de vanille me semblait encore plus prononcé qu'à l'habitude. Son air était exaspéré. Là, plus précisément. Les quelques mèches échappées de sa chevelure, relevées en chignon, étaient collées à sa nuque légèrement humide, malgré la climatisation trop forte de l'aéroport. Un peu de mascara semblait avoir coulé de son œil droit, laissant un sillon sombre sur la peau de son visage, tranchant avec sa blancheur habituelle. C'est d'abord cette image de la jante de bord qui m'est revenue en mémoire, en apprenant l'écrasement du vol 459.
Ça, je m'amuse toujours un petit peu. Moi, c'est bon.
Oui,
ça, c'est bon.
Vous avez du plaisir,
oui,
Clotilde.
Oui, énormément. Énormément, Clotilde. D'ailleurs, je m'aperçois qu'on a, j'ai un petit extrait aussi du livre de M. Roy. Je vous garantis qu'on va se prendre une petite minute pour écouter ça. Avant, il y a donc Vol 459 qu'on vient d'entendre, lu par Isabelle. Ce livre-là, il est sorti il y a à peu près un an et il fait partie d'une série. Hein?
Oui, on est quatre. C'est Vol 459 avec Alina Postolska,
oui,
Pierre Chalovski et Martin Michaud. Et puis, mais tous nos livres sont indépendants. La seule chose, c'est que le thème en commun est cet écrasement. C'est le même écrasement du même vol, donc d'où le vol 459, mais nos romans peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Il y a des personnages qu'on retrouve dans les quatre, par contre.
D'accord.
Ouais.
Et puis, aujourd'hui, ça c'est une grande première, mais il faut qu'on en parle,
oui,
parce que ça sort là,
ah, ouais,
en ce moment.
Dernier bébé.
Ça rentre là aujourd'hui dans les librairies. Vous aviez une grande amie,
ouais,
Claudia, qui s'appelait Nelly Arcan.
Oui.
Et ce livre que vous nous présentez aujourd'hui, qui, j'insiste pour dire qu'il n'est pas encore enregistré, mais je ne pouvais pas vous avoir en studio et ne pas l'évoquer, mais il sera enregistré, même sûrement par vous.
Oui, je le lirai, celui-là. Oui.
Voilà. Je voudrais que vous nous parliez de ce livre. Quel est le titre d'abord?
Donc, le titre, c'est « Je veux une maison faite de sorties de secours, réflexion sur la vie et l'œuvre de Nelly Arcan ». Donc, je dirige ce livre-là. J'ai écrit l'essentiel du livre, mais j'ai demandé la collaboration d'intellectuels, d'artistes, d'essayistes, de penseurs, des gens qui avaient, selon moi, quelque chose à dire sur Nelly Arcan.
Et c'est un hommage, c'est un récit,
C'est un livre hommage. Il y a quelque chose de l'essai. C'est un beau livre aussi parce que l'objet en tant que tel, il est très beau. Il y a des designers, des artistes qui ont travaillé sur ce livre-là.
Il y a des photos.
Donc c'est un livre hommage. Il y a des photos. La famille a été très très gentille avec moi. Elle a eu la générosité, la famille, de me transmettre des photos souvenirs de Nelly durant son enfance, son adolescence, au cours de sa vie. Donc, il y a quelques photos aussi. Il y a des dessins, des illustrations. C'est vraiment un bel objet, un beau livre.
Alors, on aborde évidemment la vie, puisque vous parlez de photos d'enfance. Donc, c'est un peu comme une biographie, mais
non,
c'est
vraiment.
Il faut que je dise que je ne l'ai pas lu, forcément,
parce qu'il vient d'arriver. Mais c'est vraiment des réflexions sur sa vie et son œuvre. Donc, oui, il y a des informations qui datent de sa vie, des informations biographiques. Mais moi, je ne voulais pas faire une biographie de mon ami. Je ne suis pas capable de faire
ça.
Donc, j'ai attendu 6 ans après sa mort pour écrire sur elle, quand même.
Ouais.
C'est des réflexions, des idées, des moments intéressants, passionnants qu'on a eus ensemble. C'est ma fascination pour elle aussi, mon admiration dont je témoigne dans ce livre-là. Mais tu sais, c'est des souvenirs aussi, la façon dont elle ne réussissait jamais à faire la cuisine comme un être humain normal. Il y a beaucoup d'humour parce que Nelly, c'est pour ça que c'est intéressant pour le lecteur aussi. Nelly, ce n'était pas que la grande ténébreuse blonde, ce n'était pas que la magnifique femme de lettres. Nelly, c'était aussi quelqu'un qui était drôle, qui avait de l'humour et qui était capable de sortir de ses réflexions psychanalytiques, de ses réflexions philosophiques ou de ses combats féministes qui sont tout à fait louables et nécessaires, bien sûr. Mais Nelly, c'était aussi quelqu'un de drôle. C'était une amie avec qui je prenais un coup une fois de temps en temps, puis on faisait le monde ensemble. Ces mots-là sont tirés de mon expérience avec elle. Et il y a les mots de d'autres personnes aussi qui réfléchissent sur elle. Et ça, c'est aussi, c'est précieux parce que j'avais besoin que mes propos soient nuancés.
Ça donne ce livre-là dont je voudrais redonner le titre.
Oui, si je veux une maison faite de sorties de secours, c'est paru chez VLB Éditeur et ça sort aujourd'hui, tout juste en librairie.
Le titre est beau, le livre est beau.
Le titre est magnifique.
Tiré d'un spectacle de Manon Aligny parce que Nelly travaillait sur ce spectacle-là. C'est une phrase tirée de sa tête, belle tête blonde.
Je vais vous laisser partir, Monsieur Roy, Jean-Louis Roy. Donc, vous allez retrouver ce soir Claudia Larochelle qui
avec
va
grand plaisir.
Voilà pour le lancement de cette première production Vues et Voix. C'est la première fois que Vues et Voix produit un livre audio destiné à tout le monde, au grand public. Alors, nous en sommes très fiers et nous sommes très très heureux que ce soit votre livre, Monsieur Roy, qui ait été choisi et surtout que vous l'ayez lu. Je vous remercie infiniment. Bonne chance, bon vent et au plaisir de vous retrouver pour d'autres livres parce que vous en ferez d'autres et vous en relirez d'autres, c'est
très
certain.
Bien, avec plaisir.
Merci, Monsieur Roy. Vous êtes encore là? Eh bien, nous aussi. Et nous aussi, c'est-à-dire Claudia Larochelle, qui est mon invitée. Je m'appelle Clotilde Seille et c'est la deuxième partie de l'émission des livres plein les oreilles sur Canal M. Claudia, je vous ai déjà remerciée et vous m'avez déjà dit pourquoi vous aviez aussi généreusement accepté de devenir la porte-parole de Vues et Voix officielle. Vous allez rentrer, ça va être votre première activité officielle en tant que porte-parole ce soir.
Vraiment.
Ce soir
au
Salon du
Livre de Montréal, à la Place Bonaventure.
Et donc, vous nous aviez dit en première partie, je le répète peut-être pour les gens qui viendraient juste de se joindre à nous, que vous aviez vous-même une grand-maman qui était atteinte.
De dégénérescence maculaire et c'était une grande lectrice. Elle est décédée, bien sûr, mais c'est une grande lectrice. Elle se passionnait pour ça. Moi, je lui offrais beaucoup de livres et éventuellement, ça s'en venait. On devait l'inscrire pour qu'elle reçoive effectivement des livres audio, pour qu'elle ait accès à ce service-là qui est nécessaire, essentiel. Je pense à elle, mais je pense à tous ceux dans le besoin. besoin. Puis elle était seule, c'était une veuve, elle était dans la solitude. Le livre était son ami. C'était une manière pour elle de combler les moments de lassitude, de lenteur, des moments plus pénible, plus triste. Et puis, elle aurait eu accès à ça, elle en aurait eu besoin. C'est pour ça, notamment, puis parce que je suis quelqu'un, je pense que je suis une femme de cœur, puis je le dis bien humblement, là, mais je suis quelqu'un qui aime donner beaucoup aux autres parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend nous-mêmes aussi comme être humain. Hein.
Non, c'est ça.
Oubliez ça, là.
Et la lecture à haute voix, c'est quelque chose aussi qui vous tient à cœur.
Ah oui, j'aime ça faire ça.
Vous faites partie régulièrement, vous êtes aux côtés d'Alain Labonté,
qui
a d'ailleurs été mon premier invité ici de la saison.
Clotilde, on a fait ensemble un parti pyjama avec
Alain.
Oui,
on l'a fait. Mais vous êtes là tout le temps.
Oui, je suis comme dans le cœur de cette activité. On fait ça avec Kim Thuy, Alain Labonté et moi. On est comme le petit trio et ils se joignent souvent à nous. Parfois, c'est les mêmes personnes, mais d'autres fois, c'est des nouveaux venus qui sont là pour partager leur amour de la lecture.
Des nouvelles voix, c'est ça. Qui ne sont pas forcément d'ailleurs des gens qui sont reliés à la littérature, mais qui viennent lire comme ça. Et la lecture à haute voix pour vous, est-ce que c'est parce que vous avez déjà lu ici vous-même?
Oui, j'ai lu. Bon. Hey, c'est toute une affaire parce que je vais vous dire, moi, je n'avais jamais fait ça. J'avais pris connaissance de ce service-là. Je connaissais la magnétothèque à l'époque, puis maintenant, bon, vues et voix. Mm-hmm. Mais la première fois qu'on m'a dit « Veux-tu le faire? » J'ai fait « Oui, je veux savoir, je veux le faire. » Et non seulement je veux le faire, mais je veux devenir bénévole. Puis pas seulement porte-parole, mais bénévole. Je veux en faire de la lecture plus souvent. C'était un livre jeunesse. On m'a donné quelque chose d'assez facile pour commencer. Pas beaucoup de pages, voyez-vous. Et au bout d'une séance, là, de 3 heures, j'étais fatiguée. Les gens ne peuvent pas s'imaginer à quel point c'est épuisant. Oui. La voix me lâchait. J'avais la gorge sèche. J'étais complètement fatiguée, épuisée. Ce soir-là, j'ai dormi sur mes deux oreilles, je peux vous dire. Contentée, mais épuisée. Alors, c'est utile, essentiel, et j'ai beaucoup de respect pour les bénévoles qui viennent des fois même après. Bon, il y a beaucoup de retraités qui le font. Fatiguant faire ça, là, quand même. Faut le dire, là. Ils partent de chez eux, puis bon. Et après ça, il y a les gens qui, après leur journée de travail, c'est quelque chose. Là.
C'est quelque chose.
On vient ici, là. On n'écoute pas des téléromans sur notre divan, là. On vient s'impliquer, donner notre temps et lire des livres. Oui. Puis lire des livres comme ça, on ne les a jamais lus avant, là.
Non.
C'est la première fois aussi. On ne connaît pas le texte.
Non.
Et on se reprend, puis on trébuche, puis on recommence. Et c'est. Ah, wow!
C'est une leçon d'humilité incroyable.
C'est une grande leçon d'humilité pour nous et pour ceux qui sont de l'autre côté aussi de la cabine pour nous monitorer. Tout ça. Oui. C'est quelque chose.
Ouais. Et comme je le dis toujours, ce n'est pas parce que vous êtes un lecteur peut-être moyen, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave parce que dites-vous que c'est tellement difficile de bien lire. Ce n'est pas parce qu'on sait lire qu'on sait lire.
Ah non, pas du tout, parce
alors,
qu'il faut la voir, il faut porter ce texte-là.
Non, c'est ça. Vous savez qu'il y a plein de comédiens qui ne sont pas très bons dans cet exercice-là.
Oui, ça, je ne savais pas.
Oui, ben absolument, parce que souvent, soit ils n'osent pas, alors ils n'en font pas assez.
Ah oui, c'est vrai.
Ou alors ils se mettent à jouer.
Ben
puis
non,
là,
on peut
quand
pas
tu
faire
joues,
ça.
Tu ne peux pas faire ça. Il faut suggérer. Donc, c'est un exercice excessivement difficile.
Il faut une neutralité, il faut porter l'émotion du texte en même temps. C'est du dosage. Tout est une question de dosage.
Exactement. Si bien que, ben, écoutez, c'est Prix Euphonia que vous allez également présenter
deuxième
ce soir,
édition.
Deuxième édition, qui sont des prix qui justement qui sont attribués à des productions de livres audio, soit adaptés, soit grand public.
Tout à fait.
Je précise que Vues et Voix, étant organisateur de cela, cette année encore, ne figure pas parmi les gens dont certains livres auraient pu être proposés. Donc, on n'est pas là, mais c'est pas grave. Ce sera pour une autre année. M'ont dit là, les gens.
Nous vaincrons.
Nous vaincrons, mais pour l'instant, on n'est pas là. Mais ça fait rien parce qu'on n'est pas les seuls à faire cela.
Non.
D'une part, pour le service audio adapté, mais également pour le grand public. Alors, donc, il y a deux prix qui vont être mis. Hein, producteur de livres audio adapté et producteur de livres audio grand public.
Oui. Et deux, et puis cette soirée-là, elle est exceptionnelle parce que c'est important de récompenser ces gens-là. On ne peut pas oublier l'importance que chacun de ces individus-là, ceux qui vont gagner, mais ceux qui sont nominés aussi, l'importance qu'ils ont, ces gens-là.
Oui.
Leur service est vraiment
essentiel
pour aider, pour que tout le monde puisse avoir accès à ce service-là, pour que tout le monde puisse avoir accès aux livres. Mmh. Il faut que les éditeurs en soient conscients, les éditeurs de livres aussi. Parce que quand mon livre paraît ce soir-là, paraît aujourd'hui, il est déjà en librairie, mais il vient de sortir, les gens qui ont recours à Vues et Voix n'ont pas accès tout de suite à mon livre.
Non, non, ça va prendre quelques mois.
Ça va prendre du temps, puis tout ça. Alors moi, j'imagine, ils se privent d'un chef-d'œuvre, ces gens-là.
Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens que ça frustre énormément.
C'est long.
Mais je les comprends.
Ben oui,
parce que, bon, parce que souvent, il y a la lecture, mais après, ben, là-bas, il y a une production.
Hein. Oui.
Bon, et effectivement, c'est très frustrant.
Je rêve du jour où les éditeurs vont dire « Ok, d'accord ».
Oui, et moi donc.
Oui.
Vous savez que j'avais fait le tour à un moment donné.
Non.
Oui, il y a quelques années, j'avais fait le tour. Et la plupart me disaient, quelle bonne idée, faites-le donc.
Mais c'est toujours comme ça.
OK, alors finalement, j'avais découvert la magnétothèque. C'est pour ça que je suis très heureuse qu'on ait enfin une production Vues et Voix et qu'on ait produit ce livre de M. Roy tel qu'il est venu nous le présenter et tel que vous le présenterez ce soir également à l'ouverture du Salon du Livre.
Parce que c'est important qu'on connaisse les Pruophonia et qu'on reconnaisse le travail de ceux qui sont là en marge, en train de faire fonctionner toute cette petite industrie-là.
Alors, c'est pour cela que je voulais vous garder avec moi pour la deuxième partie de l'émission, afin que vous nous en parliez. On aura l'occasion, et j'en suis très heureuse, de nous revoir en 2016 aussi. Et j'ai très hâte de lire ce livre. Je voudrais rappeler, comme vous l'avez fait tantôt, qu'aujourd'hui même, en ce 18 novembre, sort en librairie le nouveau livre de Claudia La Rochelle, porte-parole de Vues et Voix, qui a écrit des réflexions sur la vie et l'œuvre de celle qui a été son amie, sa grande amie Nelly Arcand. Elle a aussi dirigé l'édition de ce livre-là. Et écoutez bien le titre et ne l'oubliez pas, il est merveilleux. « Je veux une maison faite de sorties de secours » que vous allez venir nous lire également. Et donc, il sera bientôt disponible dans quelques mois. Et on vous réinvitera, il n'y a pas de raison.
Ah, il n'y a pas de raison que je ne revienne pas. Vous êtes si gentille en plus.
Merci,
moi, je
Claudia.
Suis contente de vous revoir, Claudia.
Ça me fait chaud au cœur et merci d'une part d'être la porte-parole de Vues et Voix et d'autre part pour ce que vous allez faire ce soir à l'ouverture du Salon du Livre de Montréal 2015. Au revoir. C'est la bande-annonce de cette émission pour vous dire que la semaine prochaine, je serai très, très heureuse d'accueillir René Martel. René Martel, comme le dit la quatrième de couverture, je ne vous cache pas que c'est elle que je suis en train de lire en ce moment, l'une des plus grandes stars du Québec, qui chante depuis l'enfance avec son père, Marcel Martel, l'un des pionniers du western, qui s'impose dans les années 60 comme icône de la pop avec ses hits. Et, Liverpool, hein, Claudia, vous pourriez chanter ça aussi, Je vais à Londres, Un amour qui ne veut pas mourir, C'est mon histoire, etc., etc. Ça s'appelle le roman de René Martel. Ça a été écrit par Daniel Lorrain, qui écrit notamment dans Le Devoir. Et le titre est bien choisi parce que quelle histoire, quelle vie que cette vie de roman Martel. J'ai envie de vous en lire un petit bout ici. Elle allait devenir la cowgirl, à l'époque la cowgirl dorée. Elle n'était déjà plus la fille de Marcel Martel, elle devenait Renée Martel. Et on nous raconte que ce soir-là, Daniel Lorrain, Renée ne se sent pas bien, elle est grippée. Alors elle fait quand même son tour de chant. Mais elle, qui habituellement suit son temps et commence à chanter au bon moment, eh bien elle se trompe dans une chanson. Elle sort de scène quand le spectacle est terminé et en coulisses, il y a son père qui lui rentre dedans, qui lui dit « tu étais pourrie ». C'est épouvantable ce que tu viens de faire là. Elle répond, écoute papa, je suis malade, je me suis trompée, c'est tout. Il la bouscule, il la heurte brutalement. Elle est en train de mettre ses espadrilles, elle en a une dans les mains, il la moleste encore, alors elle le fait. Pour la première fois de sa vie, elle se défend contre lui. Elle répond à ses coups, avec son espadrille, son père est estomaqué. Elle dit, tu t'en prends à moi, je m'en prends à toi. Puis, je vais te dire une chose, quand ce sera fini, tu ne me retoucheras plus jamais de ta vie. Et ça dure, et ça dure. Il attaque, elle attaque. Il attaque, elle attaque. Puis, il cesse, elle aussi. C'est fini. Voilà, ça n'a pas toujours été facile. Grand, grand amour avec papa, mais un papa qui n'était vraiment pas évident. Et tout est dit, tout est écrit, donc tout sera lu. Mais moi, entre autres, quand je suis tombée sur ce passage-là, j'avais... le sang qui s'est un petit peu figé dans mes veines. On va donc rencontrer René Martel qui nous fait la joie, le plaisir de sa présence la semaine prochaine. Ne manquez pas cela à partir de mercredi prochain. Première diffusion à midi.
à moi. Revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard, prendre un taxi qui va le long de la Seine, et me revoici au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux vers ma maison, bon lieu où ma mère m'attend, les larmes aux yeux, le cœur content. Ce n'est pas un rêve, c'est l'île d'amour que je vois. Le jour se lève et sèche les pleurs des bois. Dans la petite gare, un sémaphore appelle ces gens, tous ces braves gens de la Varenne et de nos gens. Bonjour la vie, bonjour mon vieux soleil, bonjour mamie, bonjour l'automne vermeil. Je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais, je suis qu'un petit français, rien qu'un enfant, tout simplement.
Revoir Paris, chanté par Benjamin Biolay, la chanson de Charles Trenet, bien sûr, reprise ici, et réentendre avec plaisir Gérard Saint-Denis.
Madame, vous me faites pleurer.
Oh! C'est pas moi, c'est Charles Trenet.
Alors que je dois dire, c'est une journée merveilleuse, fantastique, formidable. C'est l'ouverture du Salon du Livre. Madame.
Mais oui!
C'est merveilleux, merveilleux. Mais j'écoutais ça. Savez-vous que c'est le 25 mars 1960 que la première fois j'ai mis les pieds à Paris?
Ah oui?
En 60, à 8 francs au dollar, 40 francs pour un repas conventionné. Et la première fois que je suis allé au pied de cochon et que j'ai vu les 7, 8, 10 sortes d'huit qu'on m'offrait, j'étais complètement bouleversé, estomaqué. J'ai dit, oh, j'en prends deux de chaque. Et quand je suis allé en 2011 pour Visez-Voix, pour faire une étude dans les bibliothèques sonores, oui, c'était mon 27e voyage à Paris. J'ai été très gâté.
27 fois à Paris?
27 fois.
Ah oui, en effet, alors vous connaissez Paris.
Ah, je connais Paris, j'adore Paris, j'aime Paris. Et tous les livres qui touchent à Paris, je trouve ça formidable, formidable, formidable.
Oui, oui.
C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire Simenon Maigret, hein, parce que ça se passe...
Mais oui.
Oui. En parlant des livres...
Alors, Paris.
Quand on pense à celui que Jules Verne a écrit, Paris au 20e siècle, c'est incroyable que ce bonhomme-là ait pu, en 1860,
oui,
écrire un livre qu'on lit aujourd'hui et qu'on pense que ça se peut pas qu'il ait pensé à ça.
Oui, parce qu'il est en vacances, hein, à Paris avec un cousin.
Oui.
Et puis, il vient en aide, il y a une Natacha qui vient en aide à Sarah, qui est un mannequin vedette victime de néo-nazis. Mais attendez, en quelle année, rappelez-moi, il a écrit ça?
1860, madame.
Oui. Il n'était pas juste précurseur en science, hein, le bonhomme. Hein?
Non, non, il était formidable. Et j'invite nos lecteurs à lire ça, c'est merveilleux.
Alors, Paris au 20e siècle,
oui,
par Jules Verne.
Alenka.
D'accord.
Alenka, par notre ami Jules Verne.
Il y a aussi à l'Inca aussi un rendez-vous troublant, je l'ai fait, je vais vous dire pourquoi. C'est un roman policier de Christine Bruyette, mais ça se passe à Paris.
Oui.
Je trouvais ça intéressant. Des fois, on aime ça avoir un petit peu d'action.
Oui.
Dedans, et ça, c'est très intéressant. Et ça se retrouve aussi à l'Inca par Christine Bruyette. C'est
d'accord.
Un rendez-vous troublant, très troublant.
D'ailleurs. D'accord.
Il y a aussi un Inca sacré français par un Américain qui nous regarde.
Ah.
C'est humoristique.
Oui,
c'est
oui, oui.
C'est bon. C'est bon parce que ça décrit vraiment la situation.
Ben oui, c'est qu'est-ce que les Américains pensent des Français, oui. Quoi?
Et comment ceux-ci réagissent?
Oui.
C'est merveilleux.
Oui, 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 oui. Alors, ils se penchent du coup sur leurs habitudes, hein, sur leur mode de vie, les 35 heures à la cuisine,
c'est
enfin
ça.
Bon, tout,
exactement.
Tout, c'est ça.
À l'Inca, c'est à l'Inca.
D'accord.
Et enfin, à l'Inca, il y a le dernier que j'ai pris pour là, c'est celui sur la Tour Eiffel. Je pense que ça va de soi. On ne peut pas faire autrement que de penser, d'aller voir un peu comment c'est fait, comment ça fonctionne.
Comment ça fonctionne.
Oui. Et c'est une institution, la Tour Eiffel. Je veux dire, faut pas, on n'a pas le choix, c'est ça.
Et le livre s'appelle, je voudrais le préciser, Gérard Eiffel.
Eiffel.
Voilà.
Eiffel.
C'est ça.
Et par Michel Camona.
Carmona, hein?
C-A-M-O-N-A.
Ah, d'accord, c'est C-A-M-O-N-A.
Carmona.
Ah, c'est ça, il y a un R.
C-A-R-M-O-N-A.
D'accord, C-A-R-M-O-N-A. Et ça, c'est vraiment la biographie qui...
Oh, oui.
Hein, voilà, qui explore la vie et l'ascension fulgurante de cet ingénieur français, oui. À qui on doit tout le mécanisme dans la Statue de la Liberté aussi. Hein?
Oui, c'est lui qui a fait ça.
Ouais.
Vous avez raison, madame.
Ouais, ouais,
vous êtes...
Ouais.
Vous connaissez bien l'histoire des États-Unis.
Oh, je ne connais pas tout, mon ami, mais ça, je ne sais pas pourquoi. Oui. Je suis tombé dessus, puis je le sais.
vous avez aussi d'Émile Zola, Le Ventre de Paris.
Ah, ça, c'est un incontournable.
Oh, c'est bon, c'est juteux, c'est savoureux, c'est profond.
Oui.
On a l'impression d'être là.
Oui, et c'est dans les halles, hein, ça
tout,
se passe dans...
Il y a
dans...
des livres,
ouais.
Surtout quand nous, les lecteurs... handicapés visuels et qu'on souvent on lit les yeux fermés.
Ben oui, oui.
On a plus que vous autres, les voyants. Et vous êtes distraits quand vous lisez des livres. Nous autres, on n'est pas distraits. On a l'impression vraiment de vivre cette histoire-là, d'y être comme si on voyait un film. C'est merveilleux.
C'est merveilleux. Je vous remercie d'avoir eu ce commentaire-là, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous échappe complètement à nous voyants. Et vous avez raison de dire qu'on est constamment... Il y a toujours quelque chose qui va faire que notre œil va être attiré.
Ben, j'ai lu quelque part, je ne peux pas vous donner le ouais. Peut-être qu'un de vos éditeurs vous le diront, j'ai lu quelque part que quand on est un voyant qui s'assoit et qui lit pendant une heure et demie, comme il faut, confortablement chez
ouais.
Elle, cette personne-là est distraite 122 fois. Pour toutes sortes de raisons.
Un voyant, vous dites. Qui...
Un voyant.
Ah ben oui, sûrement.
Pour toutes sortes de raisons.
Ben oui.
Nous, on n'a pas ça. Par contre, on a d'autres choses, mais c'est très intéressant.
Alors, après Le Ventre de Paris de M. Zola, un autre grand classique.
Oui. De Notre-Dame de Paris.
Voilà.
Où est-ce qu'elle est là? On va trouver de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, c'est incontournable. C'est un monument. Vous savez que quand vous êtes à Paris, que vous êtes en province, disons, et on dit qu'il y a 322 kilomètres pour vous rendre à Paris, vous savez où aller la borne?
Oui, je le savais.
Aller à Notre-Dame.
Oui, oui, c'est ça,
elle
exactement.
Est là, elle
oui.
est là, c'est là le centre.
Le centre de Paris.
C'est là qu'on commence à faire, c'est la borne, elle est là.
Oui, 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 c'est vrai, exactement.
Vous vous rappelez du jeu 1000 bornes, hein?
Mais oui! Oui, oui, crevaison, on aimait ça. Oh non, j'ai pas encore crevé.
Ah, on a joué à ça, c'est merveilleux. Ouais, et bon, ça, il y a de Victor Hugo, on trouve ça au SQLA.
D'accord.
Et on a aussi Voyage au centre de Paris, où est-ce qu'il est là, par M. Lacroix.
Oui.
C'est une autre façon de c'est une... Comment je dirais ça, non? C'est une façon de on parle du jardin de Luxembourg.
Oui.
On parle de plusieurs choses. On décrit des lieux et mm-hmm. des attitudes et qui sont très intéressants.
C'est ça.
On voyage.
Oui, on découvre, en fait, chaque rue, chaque place donne lieu à la découverte d'auteurs oubliés ou à des souvenirs, hein, c'est ça, c'est vraiment... Ça. Bon, alors Alexandre Lacroix voyage au centre de Paris. Ensuite.
Oui. Et après ça, j'ai à AVH, j'ai Paris Insolite avec Kléber, M. Paul Kléber, c'est LIBRT.
Oui.
Et ça, c'est vraiment des choses très, très insolites. C'est un peu spécial, mais il y a tellement de choses à Paris. C'est une ville tellement merveilleuse.
D'accord.
Vous savez qu'il y a 2 millions de visiteurs par jour.
Ben oui, c'est pas par hasard.
Et nécessairement, il y a des choses fantastiques.
Bon.
Il y a AVH, toujours AVH, il y a les secrets de Paris aussi de monsieur. Je sais pas
Portier, bon, regardez-moi, je vais vous aider, Gérard. Portier, oui. Caltimba, et alors Portier comme un portier, trait d'union, Caltimba, je vous l'appelle K-A-L-T-E-N-B-A. Ça aussi, ce sont des anecdotes insolites. Hein. Comment?
B-A-C-H.
Ah, je ne l'avais pas, Kaltenbach. J'avais Kaltenbach. Ah, OK. Alors, Kaltenbach.
Non, mais je pense que c'est ça.
Alors, ben, je suis désolé parce
c'est
que...
C'est des anecdotes.
Non, parce que ça, sur le petit mot qu'il m'a envoyé, Gérard, il n'y avait pas. Mais alors, c'est pas grave. Alors, Kaltenbach.
Je l'ai ôté pour vous rendre la vie difficile. Et j'ai mon choix de livre.
Alors?
Et là, petite histoire, j'ai pris ça parce que, vous savez, je suis allé des centaines de fois. J'ai calculé que j'ai passé 11 mois et demi à Paris dans ma vie.
Eh ben,
OK.
Il y a
et
pire.
Je suis allé
hein?
des centaines de fois dans le métro.
Ah ben oui.
Donc, petite histoire du ticket du métro de Paris, c'est parisien, ça raconte tout. C'est fantastique. C'est par M. T-H-O-N-N-A-T, Grégoire Tonna.
Oui.
Et c'est en AVH. C'est l'histoire du ticket depuis 1900, depuis la fondation. Et je trouve ça formidable parce que ça raconte tout ça. Parce que, mais à la fin, il y a un chapitre qui s'inspire des auteurs qui ont écrit sur Paris.
OK. Alors, ben écoutez, je trouve que ce sont d'excellentes suggestions. Je suis convaincue.
Ça va faire un beau voyage à peu près.
Oui, ben c'est ça, exactement. Alors, merci mille fois, mon ami Gérard. On se retrouve dans deux semaines.
Je salue vos éditeurs et je lui ai dit, n'oubliez pas, si vous êtes capable d'aller voir le Salon du livre.
D'accord, dès ce soir. Merci.
Je vous embrasse tout le monde. Au revoir.
Au revoir, à dans deux semaines. Allez, on y va avec les titres en rafale. On recevait tantôt Jean-Louis Roy. Eh bien, j'ai envie de vous parler de ce Bienvenue dans le siècle de la diversité, la nouvelle carte culturelle du monde, qu'il a d'ailleurs évoquée dans l'entrevue qu'il m'a accordée dans la première demi-heure de cette émission, pour nous dire que dans 25 ans, oui, 80% de la population mondiale vivra en Asie et en Afrique. Alors, à quel changement sur le plan culturel, plus particulièrement, doit-on s'attendre au cours du présent siècle? C'est la question vaste et fascinante à laquelle Jean-Louis Roy tente de répondre avec l'aide de correspondants venus d'Afrique, d'Asie, des Amériques et d'Europe. Bienvenue dans le siècle de la diversité, la nouvelle carte culturelle du monde par Jean-Louis Roy. Ça s'est fait comme ça et c'est signé Gérard Depardieu. Ce destin singulier, cet artiste puissant, cet homme libre que les mots dévoilent avec justesse, force et pudeur. Cet artiste haï, honni par les uns mais tellement adulé par les autres, se laisse conduire depuis l'enfance par sa voix intérieure. Elle lui dicte sa vie, ses choix, sa façon d'être et de regarder le monde. Dans ce texte éminemment personnel, pouvait-on lire dans la Libre Belgique qu'il n'élude rien de ses origines modestes, du voyou et de l'enfant perdu qu'il fut, des rencontres déterminantes qui ont jalonné son parcours et de ses coups de cœur artistiques, notamment pour Marguerite Duras ou Maurice Pialat, parce qu'indéniablement humain, et c'est pour ça qu'il les adore, ces indéniablement humains, pardon de m'être un petit peu perdu, un petit extrait. Il écrit, Gérard Depardieu, « C'est comme ça quand tu n'as pas été désiré, quand tu n'as pas eu d'enfance. Tu t'échappes, tu te projettes dans les choses qui sont belles. Un enfant, un arbre, un paysage, une rivière, une musique, une vache, un chat. Tout ce que tu découvres qui parle ou ne parle pas, mais qui est la vie. » Danser les ombres de Laurent Godet, c'est un roman où l'on découvre la jeune Lucine qui arrive de Jacmel à Port-au-Prince pour y annoncer un décès. Très vite, dans cette ville où elle a connu les heures glorieuses et sombres des manifestations étudiantes quelques années plus tôt, elle sait qu'elle ne partira plus, qu'elle est venue reconstruire ici l'avenir qui l'attendait. Une critique d'un lecteur dit avec plein de finesse et de talent, Laurent Godet raconte Haïti, la pauvreté, la dictature, les tontons macoutes, la vie qui aura le dessus malgré la torture. De Danser les ombres de Laurent Godet. Hier, aujourd'hui et demain, c'est la biographie de Sophia Loren. C'est une autobiographie qui tire son titre du film éponyme de 1964 de Vittorio De Sica. Trois villes, trois récits sur le couple, la sexualité et le pouvoir. Sophia Loren, dit une lectrice, m'a donné l'impression d'être une Médée dont le Jason, trop âgé, Carlo Ponti, son mari, ne s'est jamais lassé. Amour entretenu par le désir qu'elle suscite chez les autres mâles, elle a pu ainsi développer son goût pour le bonheur simple d'une vie de famille, aidée en cela par des amis sûrs et une domesticité dévouée. Quelle femme ne rêverait pas d'avoir sa chance ? Et puis très rapidement, House of Cards, j'ignorais complètement que le livre dont on a fait cette série à succès formidable que vous savez, en fait a été écrit pour l'Angleterre, c'est-à-dire que le héros Francis voulait devenir Premier ministre. Il voulait pas devenir président de la République, ça a été retravaillé pour les besoins de la cause. Mais si vous voulez connaître l'histoire telle qu'elle a été lue et telle que c'est maintenant adaptée en livre audio, eh bien vous pouvez vous procurer House of Cards de Michael Dobbs, D-O-B-B-S, et je pense que je vais manquer de temps pour vous en offrir un autre à écouter, mais ça va me laisser du temps pour remercier mes invités, Gérald Cousineau, Jean-Louis Roy, Claudia Lachapelle, porte-parole de La Rochelle, pardon, porte-parole de Vues et Voix, et enfin Gérard Saint-Denis. C'était Clotilde Seille. À la semaine prochaine, je vous embrasse.